Rien ni personne ne peut nous éloigner de Dieu. C'est avec ce texte qu'on a commencé le temps de louange. En fait, si ce matin, le temps de louange que vous avez vécu, vous le vivez tous les jours comme ça, je peux aller me rasseoir, c'est bon. Parce que cette réalité, on doit vraiment la, quelque part, la cultiver. En tout cas, personnellement, oui, Dieu, c'est ce Dieu de victoire qui agit. Et si on regarde à lui, il y a tout qui peut aller autour de nous. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a quand même des combats, il y a des luttes, il y a des difficultés. Et ce matin, on va un petit peu parler de tout ça au travers d'une histoire qui est très connue, une histoire qui est dans la Bible. C'est une belle histoire qu'on connaît tous, qu'on connaît déjà depuis qu'on a été à l'école du dimanche, qu'on a été enfant. Et au travers de cette histoire, on va réfléchir à notre manière de vivre la résistance, le combat spirituel dans nos vies. Comment est-ce que les choses doivent se passer et comment est-ce qu'elles se passent parfois? Cette histoire, c'est une de mes histoires préférées des évangiles parce qu'elle m'a tellement souvent parlé, encouragé à persévérer quand j'ai été placé face à des situations des fois qui étaient difficiles, qui étaient compliquées, qui était parfois même sans issue, on ne savait plus comment faire, cette histoire, elle m'a toujours parlé. Et encore en préparant ce message, moi, j'ai compris de nouvelles révélations pour ce que je vis aujourd'hui, pour ma façon de vivre les choses aujourd'hui. Et cette histoire, elle se trouve dans trois évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et on va la lire dans Marc. Marc 2, les 12 premiers versets. Marc 2, versets 1 à 12. Donc Jésus est en Galilée, il se passe des guérisons, et puis il revient à Capernaum. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Il y a tellement de choses qui me parlent. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse mettre le focus sur ces quatre personnes, je les appellerai ces quatre amis, qui portent le paralytique. Et je crois qu'ils ont à nous parler ce matin. Ils ont tellement à nous dire, au travers de leur attitude, de leur façon de faire, d'être. Je crois que c'est des personnes qui sont des modèles pour nous aujourd'hui. Ces quatre hommes, on ne sait pas qui c'est. C'est des anonymes. Ils ont pas, non, ils font partie de la foule. Ils font partie du peuple, simplement. Et ils arrivent avec un gars qui est couché sur une civière, qui est tout autant anonyme, qui reste autant anonyme. Quand ces personnes repartent, on n'en sait pas plus sur elles. Elles restent anonymes. Et il n'est rien dit non plus de leur motivation profonde. Pourquoi est-ce qu'ils viennent avec ce paralytique auprès de Jésus? Est-ce qu'ils ont vraiment un cœur rempli de compassion pour lui? Ils disent, mais il faut que quelque chose se passe pour lui. C'est tellement triste de le voir comme ça. Est-ce qu'il faisait partie de la famille du paralytique? On n'en sait rien. Peut-être qu'ils étaient fatigués de devoir s'en occuper tous les jours, puis ils se disent, ben là, c'est enfin l'occasion d'un petit peu pouvoir nous reposer. En tout cas, ces quatre hommes devaient être impactés d'une manière ou d'une autre par la situation de ce paralytique. Et je pense qu'ils devaient se connaître et même bien se connaître. Ça, c'est ma réflexion en lisant les textes, en y réfléchissant. Quand on voit comment ils ont fait, ils se sont mis d'accord. Ces quatre hommes se sont mis d'accord. Notre ami, on va l'emmener aux pieds de Jésus. Pour eux, c'est certain, Jésus, c'est la solution. Avec ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont un petit peu entendu dire à gauche, à droite, il ne faut pas louper cette occasion. Il faut qu'on y aille. Jésus, c'est la personne qui peut le relever. Alors le malade, lui, de son côté, il n'a pas l'air très enthousiaste. Quand on lit l'histoire aussi, il est dit nulle part, ça, vraiment en clair. Mais il est parlé de la foi des quatre hommes, pas de la foi du paralytique, à un moment donné. Il n'est pas très enthousiaste à l'idée de ce qu'on le déplace, qu'on le trimballe à gauche, à droite, et puis qu'on l'amène nouveau au vu de tout le monde. Combien de déceptions est-ce qu'il a déjà eues dans sa vie? Combien de promesses qui sont restées sans lendemain? On n'en sait rien. Mais en tout cas, en lisant cette histoire, on comprend qu'il n'attend pas grand-chose de ce que ses amis veulent faire avec lui. Mais bon, il n'a pas grand-chose à dire, hein, quelque part. Ils sont tellement motivés, ils sont tellement décidés que, ben voilà, on y va. Je n'ai pas le choix, je dois suivre. Hein. Et tout ce monde se met en route. Et à un moment donné, il arrive. Après combien de temps? Est-ce qu'ils habitaient le village? Est-ce qu'ils habitaient le village voisin? Ou encore plus loin? On n'en sait rien non plus. Mais ils arrivent, ils approchent de cette maison. La maison où Jésus se trouve. Et là, de loin, ils voient cette foule autour de la maison et ils se disent, là, il se passe vraiment quelque chose, on a bien fait. On a fait le bon choix. Ils sont encouragés. Ils se disent, ah ouais, on va à la bonne place. Mais plus ils s'approchent, plus ils réalisent que ça va être compliqué. Et quand ils arrivent tout près de cette foule, ben ils sont bloqués. Ce n'est pas des personnes influentes qui ont un diplôme, une bonne position dans le peuple. C'est des gens du peuple comme tous les autres. Et ils n'ont pas un diplôme à présenter pour dire « mais je veux aller devant, j'ai le droit à aller devant ». Non, le passage est bouché, il est bien bouché. Alors, j'imagine qu'ils ont peut-être essayé de se frayer un chemin. Un petit peu taper sur l'épaule devant. S'il vous plaît, laissez-nous passer, c'est important. Personne ne bouge. Puis ils insistent, puis un petit peu à gauche, à droite. S'il vous plaît, faites-nous de la place. Finalement, quelqu'un se retourne. Bon, c'est bon, quoi. On n'entend même plus ce qu'il dit devant. Fichez-nous la paix. Et là, ça peut être la déception. Les choses ne se passent pas du tout comme on l'avait prévu, comme il l'avait imaginé. Et pour en arriver à cette conclusion, ben, ce n'était pas le moment. Ce n'était vraiment pas le moment pour nous. On a mal choisi le moment, on a mal évalué la chose. Alors beaucoup de ce que je vous partage là, c'est ma réflexion. Mais c'est ma réflexion qui m'a fait aussi m'arrêter sur ce qu'on peut vivre, nous, pour que nous puissions nous approprier cette histoire. Qui, dans sa vie, ne s'est jamais trouvé face à une situation comme celle-là? On prend une décision, on s'engage, on donne du temps, on donne de l'énergie, peut-être même tout son temps, toute son énergie, on peut donner de l'argent. Par exemple, pour aider son voisin qui a des difficultés à s'en sortir. Peut-être pour redonner un nouvel élan à son couple parce qu'il y a vraiment besoin. Pour essayer d'être sympa avec le collègue qui est un peu pénible, qui est un peu lourd parfois. Hein. Etc. Il y a tellement de situations que tout à coup on les a à cœur. Et puis on se dit, mais là on va faire qu'il se passe quelque chose. Mais à un moment donné, tu réalises que c'est inutile. Tu as beau faire tous les efforts possibles, c'est encore plus compliqué qu'avant. Et quelque part, on se retrouve dans la même position que ces quatre hommes derrière cette foule qui est là, compacte, et qui ne veut pas les laisser aller au but, dans ce qui s'était fixé. Alors on se pose cette question, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Pourtant, au fond de mon cœur, j'ai la conviction d'avoir fait ce qui était juste, ce que le Saint-Esprit me plaçait sur moi. Mais dans la réalité, ça ne joue pas. J'aimerais appuyer mon propos par un petit témoignage personnel pour un petit peu illustrer tout ça. Un témoignage que je suis en train de vivre. Depuis des années, je fais face avec une autre personne à une situation qui est bloquée. On est vraiment les deux à voir cette situation bloquée. Alors ça fait des années qu'elle dure, mais là, elle est devenue pesante. Elle est vraiment devenue pesante ces derniers temps. Alors on s'est mis d'accord tous les deux. On s'est mis d'accord, un peu comme les quatre amis du paralytique. On s'est mis d'accord, on a pris au mot le verset de Matthieu 18, le verset 19. Matthieu 18, 19, qu'on connaît aussi. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Waouh, quelle belle promesse, hein? Quelle belle promesse. Et on l'a prise. On l'a vraiment prise pour nous, cette promesse. On s'est appuyé là-dessus pour se mettre en route. On l'a mis en pratique, ce verset. On va tous les deux amener cette situation à Jésus. Lui seul peut faire bouger les choses. C'est notre conviction. Et déjà, le seul fait de pouvoir en arriver là, en arriver à ça, c'était une telle victoire, de pouvoir se mettre en accord pour entrer dans cette lutte. Alors les choses ont commencé à bouger. Un peu comme ces quatre hommes qui arrivent vers la maison où se trouve Jésus. En s'approchant de la maison, ils voient tout ce monde, ils voient tout ce qui est en train de se passer. Ils voient qu'il se passe vraiment quelque chose là-bas. On en est un peu là. On voyait toutes ces choses en train de se passer, commencer à bouger. Mais d'un moment à l'autre, on s'est retrouvé face à un mur. Et notamment la maladie est venue faire barrage, mais vraiment barrage. Une maladie conséquente qui a tout arrêté, terminé. Alors je fais quoi dans une situation comme celle-là? On réfléchit puis on se dit, mais je me suis peut-être lancé dans un truc un petit peu trop dangereux là. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit peu quelques pas en arrière et puis que je me détourne, puis j'aille voir ailleurs. Oui, parfois on dérange l'ennemi. Hein. Et ces situations peuvent nous dépasser. Ça nous dépasse complètement. Ou alors, et c'est dans cette option-là que je me suis engagé, ma cible, qui était cette situation bloquée, elle change. Et c'est plus l'objectif du début qui est mon objectif, mais la cible, ça devient cette maladie. Cette maladie qui nous empêche d'avancer. Et ça devient vraiment, c'était dans mon viseur, pleinement. Cette maladie qui est venue faire barrage, elle n'a rien à faire là. Alors, est-ce que j'ai fait juste? J'aimerais vous dire que oui. Mais en lisant ce texte, en y réfléchissant, j'ai réalisé que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas parce que je me suis détourné quelque part de la cible du départ. Et c'est l'attitude de ces quatre personne qui porte le paralytique qui me fait dire ça. Moi, je les imagine arrêtés à l'arrière de cette foule, à vouloir se faire une place. Ils auraient pu commencer de un petit peu jouer des coudes, laissez-nous passer, des coups de coude, des coups d'épaule, et puis on avance. Alors on donne des coups, mais on en reçoit aussi. Puis à un moment donné, ils se disent « Ah ben, j'ai fait un bout de chemin, je suis au milieu déjà. » Mais le paralytique, ils l'ont laissé derrière parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Et puis, ils regardent en arrière puis ils disent « Ben mince, j'ai ouvert une brèche, mais elle est déjà refermée derrière moi. Inutile. » Et là, ça peut être le découragement. Mais leur attitude, ce n'est pas du tout celle-là. Et leur attitude, elle m'a vraiment parlé. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lèvent les yeux. Ils lèvent les yeux au-dessus de la foule. Et en levant les yeux au-dessus de la foule, ils ne voient plus la foule, mais ils voient autre chose. Physiquement, ils voient un escalier. Un escalier qui monte sur le toit. Le regard est monté et il est sur ce toit, le toit de la maison. Alors c'est un toit plat, on est bien d'accord. Un toit sur lequel on peut se poser. Il voit ce toit au-dessus de la mêlée. Plutôt que de me battre face à tout ce qui vient me déranger, m'empêcher d'arriver à mon but, je suis appelé à lever les yeux vers les hauteurs. Le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors nos quatre amis se disent, c'est par là qu'on va passer. C'est par là. Ils vont ignorer les réactions de la foule, les remarques moqueuses. J'entends, ils sont quatre avec un brancard. Vous voulez monter là-haut ? Vous avez déjà de la peine avec le brancard. Puis en plus, vous serez en haut, il sera en plein soleil, alors qu'ici en bas, il y a de l'ombre sous les arbres. Non mais franchement, vous faites quoi ? Des moqueries, il a pu y en avoir. Mais ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils ont persévéré pour se retrouver sur ce toit. Un endroit où il n'y a pas la foule, où il n'y a personne pour les empêcher d'approcher de Jésus. Il n'y a personne. Ils sont au-dessus de la mêlée. Mais par contre, il y a une dalle. Il y a un sol qui est bien là, bien solide, sur lequel on peut marcher. Mais un sol qui nous empêche, qui les empêche d'accéder à Jésus. Alors ils auront beau menacer l'obstacle par toutes sortes de mots, de paroles, il ne va pas bouger. Mais j'ai réalisé, cet obstacle, il leur fait plus face. Il est sous leurs pieds. Il est sous leurs pieds. Et ça m'a fait penser à ce texte de Josué 1, le verset 3, où Dieu dit à Josué et au peuple d'Israël, « Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'est une parole que Dieu a donnée au peuple d'Israël, à un moment donné. Et je crois que c'est une parole qui est pour nous aussi, aujourd'hui. Tout lieu que foulera la plante de nos pieds, le Seigneur nous la donne, nous le donne ce lieu. Et nos quatre hommes s'approprient cet obstacle et ils s'y attaquent. Dans quelle position ? Ils sont à genoux. Ils sont à genoux, ils commencent à gratter. Enlever la paille, enlever la terre, je ne sais pas trop comment ça tenait, il devait y avoir des planches dessous qui tenaient tout ça. Mais ils sont à genoux. C'est à genoux que le combat se passe là. Et ce qui est certain, c'est que en creusant, il y a de la poussière qui a dû commencer de tomber, du chenil, comme on dit chez nous, qui a commencé à tomber. Il y a un petit peu de lumière qui est arrivée à l'intérieur de la maison. Et ce n'est plus un combat au coude à coude, dans lequel on donne des coups et qu'on les reprend. C'est plus ça du tout. C'est un combat qui se fait dans la joie, dans l'euphorie même, pour ces quatre hommes. Parce que quand cette poussière, tout ce qui tombe, ces petits morceaux de terre, de petits cailloux qui commencent à tomber, les gens qui sont au pied de Jésus en train de l'écouter, ils vont faire quoi, franchement ? Ah, ça me tombe dessus, c'est sympa. Non. Non, ils vont faire de la place, ils vont reculer. Et à partir du moment où le toit est percé, le chemin était ouvert pour déposer le rami au pied de Jésus. Il n'y avait plus d'obstacle. Et exactement là où le miracle doit se produire, au pied de Jésus. Ils arrivent à le descendre exactement là où ils avaient espéré l'amener. Mais pas du tout comme ils l'avaient prévu au départ, je suis sûr. Et à ce moment-là, eux, ils n'ont plus rien à faire. Juste regardez ce qui est en train de se passer. Ils deviennent spectateurs. Moi, je les imagine à regarder depuis là-haut. À regarder ce qui se passe en bas. Et depuis l'endroit où ils sont, ils ne vont rien rater. Et ils vont même voir comment la foule va ouvrir un couloir à cet ex-paralytique quand il sera guéri pour ressortir de la maison. Eux qui n'arrivaient pas à faire ce passage. Le couloir va s'ouvrir tout seul. Quel miracle! Quel miracle ils vivent à ce moment-là. L'histoire se termine ainsi. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pour en revenir un petit peu à mon expérience personnelle, la maladie a réussi à me faire changer de cible. Non pas que ce soit faux, qu'on se comprenne bien, de prendre position face à la maladie. Au contraire, on doit s'approcher de Dieu, de Christ, face à la maladie. Face à nos échecs, il les a portés à la croix. Et oui, la maladie peut être la cible que nous devons atteindre à un moment donné. Un combat que nous devons atteindre. Et en Christ ressuscité, la victoire sur la maladie, elle est acquise. Et c'est dans sa présence que cette restauration peut se faire. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Il y a combien de paroles qui sont là, des promesses de l'Éternel pour nous ? Je suis l'Éternel qui te guérit, dans Exode. Ou dans Ésaïe. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien ». Je viens à ton secours. Oui, Dieu veut guérir. Et quand le combat, notre cible est la maladie, gardons cette cible. Parce qu'il y a autre chose qui va venir nous empêcher de garder cette cible. Mais là, pour ces quatre hommes, la cible, c'était la maladie. C'était la maladie de leur ami. Mais ils ne se sont pas laissés détourner par les murailles qui étaient là-devant. Mais bien souvent, on discerne l'œuvre du diable, l'œuvre de l'ennemi, dans des situations. On la voit. Parfois, on dit même c'est gros comme une maison. Et c'est un discernement qui est juste. Le problème, bien souvent, c'est qu'on va l'attaquer de front avec toute l'autorité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Comme nos quatre amis aurait pu le faire, commencer de se battre pour faire de la place. D'ailleurs, c'est des gars qui sont musclés, ils ont porté le paralytique je ne sais pas combien de temps, et ils sont là, et ils sont encore plein de force. Et ils pourraient commencer à combattre l'ennemi de face, mais eux, ils s'arrêtent. Ils lèvent leur regard, montent au-dessus de la mêlée, et s'agenouillent pour atteindre ce qui était leur première cible. Et je me suis demandé, mais combien de batailles, combien de nos combats ne sont pas allés à leur terme, combien est-ce qu'on en a perdu, parfois même, parce qu'on a attaqué l'ennemi de face. On l'a fait au nom du Dieu Tout-Puissant, mais par notre propre force, plutôt que de prendre le temps de s'arrêter. De relever nos têtes et de nous laisser entraîner au-dessus de la mêlée. Et surtout de vivre le combat à genoux, dans la paix, dans la confiance. Pour être efficace, je crois qu'on doit apprendre à combattre à genoux, à genoux. Alors dans la situation que je vous ai partagée, j'en suis là. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il m'ait fait comprendre ça. Et je me réjouis du jour où on verra le miracle se passer et qu'on entendra cette phrase de la foule. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce combat, ce n'est pas notre combat. C'est le combat du Seigneur. C'est le combat du Seigneur. Et il nous fait entrer dans sa suite. Mais c'est lui. C'est lui qui veut nous emmener dans le combat. Alors je ne sais pas ce matin si, en y réfléchissant, tu réalises peut-être que toi aussi tu t'épuises dans le combat. Tu t'épuises dans les luttes. Il y a peut-être un combat, une lutte que tu as abandonné parce que c'était trop dur. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter un moment. Qu'on puisse s'arrêter. Puis dire, mais Seigneur, là, j'y arrive pas. Le reconnaître. Il y a peut-être un pardon à demander à Dieu parce que je me suis trompé. J'ai dévié de la cible. Ce matin, il nous invite à relever notre tête. Regardez plus haut que ce combat, cette lutte dans laquelle on est. Regardez plus haut. Se laisser toucher par cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui nous invite à monter sur le toit, à regarder vers la montagne, à regarder plus haut, à monter plus haut. Et c'est là, à genoux, que, dans sa présence, que tu vas pouvoir faire une brèche. Tu vas pouvoir faire une brèche. Ésaïe 25, 9, et j'aimerais terminer par ce verset-là. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Mes amis, on a loué Dieu, ce Dieu de victoire. Rien ni personne ne peut nous éloigner de Dieu, de l'amour de notre Dieu. Rien ni personne. Est-ce que ce matin on est prêt à pas simplement la dire, cette parole, mais à la vivre? Mais pour que rien ni personne ne puisse nous éloigner de cet amour de Dieu, il y a peut-être des choses auxquelles on doit renoncer. Des combats qui sont inutiles, des batailles qui ne servent à rien. Parce que ce combat-là, ce n'est pas le combat du Seigneur. Je suis en train de me battre moi-même. Alors que si je regarde à lui, j'entre dans le combat que lui veut que j'entre. Et là, c'est le Dieu de victoire. C'est le Dieu de victoire qui sera avec nous. Seigneur, moi je veux te dire merci. Merci pour ce Dieu que tu es. Dieu tout-puissant. Dieu qui nous connaît parfaitement. Dieu plein d'amour, plein de bonté. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, par amour pour nous, pour qu'on ait accès au Père, pour qu'on ait cet accès à ce Dieu merveilleux qui veut nous équiper pour le combat, qui nous donne tout ce dont on a besoin. Mais ce Dieu qui combat pour nous aussi, qui combat avec nous, qui nous donne la direction. Ce Dieu qui veut nous donner la paix dans le combat, dans la lutte. La joie de pouvoir combattre pour le Seigneur des Seigneurs, pour le roi vainqueur. Seigneur, ce matin, on a besoin de réaliser combien parfois on se trompe en voulant combattre par nous-mêmes, en voulant prendre position par nous-mêmes, en voulant nous placer dans un endroit, parce que c'est un endroit stratégique, on le juge stratégique, alors que tu nous veux ailleurs. Seigneur, on veut proclamer ta victoire dans nos vies et dans ces combats qui sont déjà dans nos vies. Seigneur, ta victoire, elle est acquise à la croix. Tu as vaincu l'ennemi. Et ce matin, tu nous accueilles dans ces bras d'amour en nous disant, mais tu es du côté du Dieu vainqueur. Fais-moi confiance, regarde à moi, viens à moi. Seigneur, on veut monter sur cette montagne et simplement nous laisser toucher par toi ce matin. Saint-Esprit, viens révéler ce matin encore. Viens parler à nos cœurs. Que ton esprit nous dirige. Et Seigneur, qu'on soit dans ces combats où tu es vainqueur, parce qu'on est dans les bons combats. Merci Père, parce que tu parles ce matin. Et on veut laisser te parler encore. Amen.